Bonjour monsieur,
Bonjour monsieur.
je viens vous voir car je pense que vous pouvez m'aider. Je veux devenir chrétien. Alors imaginons, Guillaume, qu'en fin d'après-midi, un inconnu vous exprime cette demande. Quelle sera votre attitude? Alors j'envisage trois pistes. La première, la reconnaissance. Merci mon Dieu de me faire cet honneur. Deuxième possibilité, une crainte. Vais-je être capable de répondre? Mais rapidement, vous vous direz, si Dieu me le demande, c'est que j'en suis capable.
Eh oui.
Et troisième possibilité, l'embarras. D'où vient ce Martien? Que veut-il? Pourquoi cette demande aujourd'hui? Alors on va abandonner la troisième, disons, attitude, et on va essayer de voir évidemment surtout la seconde. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous répondre? Comment allez-vous envisager cette situation?
Alors, c'est difficile peut-être de faire un cas général. Mais je vais prendre les choses comme elles viennent et je vais vous dire comme ça, brûle pour point, comment je pense réagir. Eh bien, je vais lui dire, c'est très bien. D'abord, je vais vous poser deux questions. Qu'est-ce que c'est devenir chrétien pour vous? Et puis la deuxième, dans la mesure où vous savez ce que c'est devenir chrétien, qu'est-ce qui vous empêche de le devenir?
Oui, effectivement, dont la première chose peut-être à voir, c'est pourquoi on veut devenir chrétien. Qu'est-ce qui le pousse, qui le met dans cette idée, dans cette recherche? C'est quelqu'un qui, donc, puisqu'il exprime une question, une demande, il éprouve un besoin, et pourquoi veut-il devenir chrétien? Alors, on peut se poser la question, pourquoi quelqu'un veut devenir chrétien? D'après vous, qu'est-ce qui le pousserait?
Il peut y avoir beaucoup de motivations.
Voilà.
Une première motivation, c'est par exemple la peur. On a peur de l'enfer, on a peur de ce qui se passera après la mort, on a peur d'être seul ou d'avoir Dieu contre soi. Une deuxième solution pourrait être le fait de connaître ce Dieu dont on est convaincu qu'il existe. Quel que soit l'âge, quand on voit la création, quand on voit la vie, quand on voit les hommes, on peut très bien être très très attiré par ce Dieu et puis vouloir le connaître et puis se dire bah, tiens, c'est en étant chrétien que je vais le connaître. Troisième possibilité, mais je vais m'arrêter à trois parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup.
Bien sûr.
Une troisième possibilité, c'est bah, chez moi tout le monde est chrétien et j'ai pas envie d'être différent de ceux qui sont chez moi.
Oui, alors ces trois raisons ont quelque chose d'un peu en particulier. C'est que, disons, la première, c'est la peur. Donc, ne craignez-vous pas que cette démarche soit justement guidée par un besoin d'être rassuré, donc que ce soit une espèce de garantie qui est cherchée. Alors pour le temps présent, si je suis chrétien, Dieu va m'aider dans ma vie. Une fois qu'on sera peut-être de l'autre côté, j'ai plus de chance d'être mieux placé que si je ne l'étais pas. Alors déjà, il faudrait peut-être affiner, disons, ou épurer, disons, cette intention. Deuxième piste que vous soulevez, c'est, disons, une question intellectuelle, de culture. Si je me pose des questions, alors pourquoi le monde est fait, comment est-il fait, et ainsi de suite. C'est peut-être plus valable que la première raison. Parce que là, il y a une recherche de savoir pourquoi l'homme est dans ce monde et comment ce monde fonctionne. Donc, c'est beaucoup plus, disons, au contraire, intéressant pour la première solution. Et la troisième possibilité que vous avez soulignée, c'est de faire comme tout le monde, c'est de suivre dans mon milieu. Alors, quoique actuellement, être chrétien, je ne sais pas si c'est bien vu et bien porté, on devient le petit reste, mais là aussi, ça ne serait pas, si je demande à être chrétien, c'est peut-être un peu infantile, le copain va à l'équipe de foot, je veux aller à l'équipe de foot, il est chrétien, je veux être chrétien. Alors là, il faut peut-être épurer effectivement notre discussion.
Dans ces trois motivations, il y a quelque chose qui est bon. La première, la peur de l'avenir, la peur de l'enfer, la peur du jugement, la peur de Dieu. La peur, c'est une fonctionnalité qui est en nous et que Dieu a placée en nous et qui a son utilité, même si elle est désagréable. Et donc avoir peur du jugement de Dieu ou du regard de Dieu sur nous, c'est quelque chose qui n'est pas inutile. Et donc je dirais que vouloir devenir chrétien par peur de Dieu, c'est peut-être pas la voie royale, comme vous l'avez dit, mais c'est quand même une démarche qui se justifie. Dans la deuxième, vouloir connaître, vous avez parlé de démarche plus intellectuelle, plus adulte peut-être, hein, vouloir connaître Dieu, là aussi c'est bien, surtout vouloir connaître la personne qui nous a créés, qui est à nos origines en fait, hein, notre Père. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis la troisième, vouloir par exemple ne pas être trop différent de ma famille, ça peut aussi venir d'un respect pour la famille. Alors c'est vrai que la démarche n'est pas très noble, elle n'est pas très personnelle, et il vaudrait mieux avoir véritablement une démarche personnelle dans ces cas-là.
Donc en fait, moi je crois que Dieu a tout prévu et adapte à chacun de nous la possibilité un jour de pousser une porte et de démarrer. Donc je crois que toutes les possibilités qu'on a pu énumérer, et même celles qu'on a laissées de côté, sont certainement valables. Alors, peut-on parler aussi d'un appel ? Est-ce qu'après tout, ce monsieur qui a frappé à votre porte tout à l'heure, ne répond-il pas inconsciemment à une invitation de Dieu, à une manifestation ? Je ne sais pas, je ne parle pas d'un grand bruit, d'une grande lumière, des chants d'anges en arrière-fond, mais quelque chose qui se produit en lui, un appel.
Effectivement, je crois que dans la vie de l'humain, de manière générale, de manière universelle, il y a des appels incessants de Dieu. Parmi les plus évidents, je dirais que la mort, et surtout la mort de nos proches, hein, le cimetière, les cérémonies mortuaires, le deuil, etc., toute la tristesse sont des appels, parce que d'une part, on est coupé de personnes qu'on aime et on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, et d'autre part, on se dit, mais quand moi j'irai, qu'est-ce qui va se passer ? Donc Dieu nous appelle. Il y a d'autres formes d'appels, par exemple, je les cite tout simplement, la conscience, pour moi, la conscience, c'est quelque chose qui est dans notre intérieur un appel de Dieu, parce qu'on se sent mal à l'aise. Il y a aussi l'intérêt des choses. Hein, quand on fait les choses mal, on se dit, comment est-ce que je peux les faire bien ? Et c'est sûr que Dieu étant celui qui sait tout, il peut le mieux nous indiquer comment bien faire les choses. Il y a certainement la variété, la richesse de tout ce qui nous entoure, la création, l'humain, la vie de manière générale. Toutes les circonstances, donc dans leur variété, leur richesse. Je voudrais aussi dire que les circonstances nous interpellent. Quand j'ai un accident, quand je suis malade, quand je rencontre quelqu'un soit de très très exubérant, de très riche, de très créatif, au contraire de triste, alors je suis interpellé. Finalement, là aussi, tout est occasion d'être langage de Dieu et d'être appelé par Dieu.
Tout est signe.
Oui.
Alors aussi, il y a aussi des grands exemples au point de vue de l'appel, de la prédestination ou de l'élection. Hein. C'est Dieu qui nous choisit, même si on ne se rend pas compte, et puis on y répond ou on n'y répond pas. Alors on connaît surtout les gens qui y ont répondu. Je pense à Abraham, à Moïse, à chacun des prophètes. Beaucoup étaient derrière leur charrue ou leur troupeau, et ils ne pensaient pas un jour laisser leur troupeau pour aller s'occuper de Dieu, transmettre ses messages. Il y a tout simplement Paul, qui lui n'allait pas, disons, à la fête lorsqu'il a été appelé, et puis il y a vous, il y a moi, et tous les chrétiens qui nous entourent. Il y a peut-être donc, disons, un appel auquel il faut répondre, bien sûr. Et vous avez parlé de la mauvaise conscience ou la bonne conscience en fonction de certaines, disons, actions qui se déroulent autour de nous. Mais je dirais aussi peut-être qu'il y a aussi une prise de conscience de la situation de l'homme. Hein. Et je crois que dans Éphésiens, on peut le retrouver. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, et accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et puis là, peut-être qu'effectivement, il y a une prise de conscience en se disant, mais non, cette vie ne peut pas être la bonne vie. C'est le mauvais choix que je fais, je me trompe. Et cette prise de conscience peut vous amener à, sur la route, sur le chemin, ou même devant la porte, si vous voulez, et que vous allez frapper pour devenir chrétien. Et ça sera peut-être aussi une recherche de libération, parce qu'on peut se rendre compte que cette vie que vous meniez jusqu'à maintenant, ça pouvait vous écraser, ça vous apportait que des choses fictives, comme joie, comme bonheur, et qu'il fallait autre chose.
Cette prise de conscience, d'ailleurs, elle se fait de manière initiale avec Dieu quand on ne le connaît pas, comme Paul l'a rencontré sur son chemin de Damas, mais elle se fait aussi de manière régulière avec Dieu tous les jours pour nous, quand on prend conscience de ceci ou de cela et qu'on entend le langage de Dieu. C'est différent parce que c'est une prise de conscience moins profonde, moins générale, elle bouleverse moins notre vie parce que ce n'est pas devenir chrétien, mais c'est exactement le même langage. Je dirais que quand on rencontre quelqu'un, il y a un langage de Dieu, parce qu'au travers de l'autre, Dieu veut nous donner quelque chose, Dieu veut nous faire expérimenter quelque chose, nous faire entendre quelque chose. Et ce principe d'entendre la voix de Dieu, il est de la même manière. Alors cette voix, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai entendu une voix me parler, mais je peux dire que j'ai eu des convictions profondes, ou que j'ai des convictions profondes à l'égard de ceci ou de cela, dans lesquelles il me semble bien que ces convictions ne procèdent pas de quelque chose de logique en moi. Tout à coup, je pense à quelque chose. Et voilà, je ne vais pas affirmer en disant que Dieu me parle, mais j'affirme en disant que Dieu parle et que j'essaye de tendre l'oreille à ce qu'il me dit. Et je crois que ça, c'est ma meilleure sécurité.
Alors Guillaume, vous venez de dire que vous n'avez pas l'impression que Dieu vous parle au creux de l'oreille pour être chrétien. C'est une situation dans laquelle vous êtes effectivement. Personnellement aussi, je crois que j'ai un peu peut-être là, pas tout à fait la même expérience que vous, mais j'ai mon expérience. J'ai eu l'impression toujours que Dieu était là et était avec moi. Donc j'ai l'impression que je n'ai pas attendu d'être sur le chemin de Damas pour être chrétien, que ça s'est fait naturellement. Mais je ne dis pas que j'ai des mérites, hein. Ça s'est fait comme ça. C'est sûr et certain, surtout que je n'étais pas dans un milieu qui était catholique, bien sûr, comme toute la plupart des Français, mais qui n'était pas pratiquant. Alors, il y a aussi peut-être une autre quête, effectivement, dans celui qui cherche, et qui sont reliés. Tout à l'heure, nous disions de quelqu'un qui se rend compte que sa vie n'était pas la bonne vie qu'il fallait mener. Mais il peut y avoir aussi un besoin d'aimer, une quête d'un amour plus absolu, plus élevé. Et je dirais, alors, on se pose la question, mais alors, vers qui irions-nous? Entre guillemets, je le mets. Hein. Et peut-être qu'il y a cette quête, ce besoin d'un amour absolu.
Oui, 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 il y a ce besoin d'amour, c'est-à-dire de relation. C'est-à-dire que je crois que même si on est avec tout le monde, avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail, quelque part, il nous manque dans l'absolu la relation avec le Créateur. On sait que le Créateur nous aime parce qu'en fait, quand on regarde notre main, hein, quand on regarde ce qu'on est, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on... forcément, on a une sensibilité à celui qui nous a créés, qui est immense. Et dans le fait de devenir chrétien, il y a cette recherche de nos origines, de notre Père, de notre Créateur, et d'une relation avec lui qui soit posée.
Oui. Alors, c'est lié aussi peut-être à ce besoin d'aimer, à cette quête, effectivement, d'un amour plus grand. C'est une intuition qui va, de la volonté du Père qui va peut-être se découvrir. Avec ces questions que l'on se pose, sa vie qui n'est pas brillante, la peur, qu'est-ce que je vais devenir, il doit bien y avoir un amour plus grand, plus sûr, plus beau que ce que je peux connaître. Et tout compte fait, ça peut être les signes et les appels que Dieu nous envoie. Et on se dit, si je pense ces trois choses, ou d'autres, hein, Dieu se fait se connaître par ces besoins que j'éprouve.
Absolument. C'est Blaise Pascal qui disait que nous avons en nous un vide en forme de Dieu, et ce vide en forme de Dieu, il se manifeste dans tous les domaines de notre personnalité, hein, que ce soit dans ce que nous faisons, dans notre manière de penser, dans nos émotions, dans notre regard sur les circonstances, qu'elles soient de l'ordre de l'inquiétude ou au contraire de la sérénité. Tout à coup, dans la sérénité, on peut expérimenter quelque chose qui relève de la présence de Dieu et qui nous amène vraiment à vouloir le connaître.
Oui, alors en fait aussi, je reprends une expression bien connue, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé ». Donc, Dieu est là, présent dans chacun d'entre nous, et c'est peut-être à nous à enlever les mauvaises herbes pour y voir plus clair et voir que Dieu est là et se cache.
Dans cette expression de devenir chrétien, il faut quand même qu'on note le mot « devenir ». Devenir chrétien suppose qu'avant on ne l'était pas et qu'après on l'est. Dans l'expression populaire « tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé », ça suppose que quelque part tout le monde a trouvé Dieu déjà. Alors, il faut peut-être voir qui relève de quoi et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça.
Je ne le voyais pas dans la situation là. « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé », je l'adressais uniquement à celui qui est dans la quête, qui a fait, qui a ressenti, qui a vu des signes, qui a entendu un appel, qui a réfléchi, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes signes, les mêmes appels, mais qui ne les voient pas parce qu'ils sont pris par une vie du monde qui les aveugle ou qui les rend sourds, hein, les rend sourds. Mais là, je pensais que c'était déjà un début, disons, que ça pouvait se faire. Mais en fait, il peut y avoir aussi des signes extérieurs qui peuvent être déclencheurs. Vous en avez parlé au début, ça peut être le milieu familial qui vous incite à, ou au contraire, qui ne vous incite pas à. Ça peut être vrai dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est sûr. Alors, une rencontre, c'est quelqu'un, un collègue de travail, un prêtre, un prof, un conjoint, hein, qui peut évidemment vous remettre un peu les choses en place, un événement, on en a parlé, les signes, une lecture, un modèle. Alors, c'est bien, c'est ça, mais parfois, c'est peut-être un peu affectif, infantile. Et pour devenir chrétien, pour vraiment adhérer à Dieu, il faut peut-être partir sur des bases qui sont responsables et qui soient vraies, qui ne soient pas entourées d'un folklore qui peut ensuite troubler un peu toute la démarche.
Tout à fait. Je voudrais revenir sur la notion de recherche de Dieu. Je pense que je ne vois pas bien que quelqu'un ne recherche pas Dieu, en fait. Tout à l'heure, vous disiez que dans le proverbe populaire, tous ceux qui cherchent Dieu l'ont déjà trouvé, mais ceux qui ne l'ont pas trouvé le cherchent aussi. Donc, je crois qu'il y a quelques... Vous parlez de recherche infantile, gentille, ouverte, ceci ou cela. Je pense que dans toutes ces recherches-là, il y a cette recherche qui correspond à un besoin immense de l'homme, peut-être conscient ou inconscient. qui fait que l'homme est, même quand il nie qu'il y a un Dieu, hein, que pour moi l'agnosticisme ou l'athéisme est une forme de questionnement douloureux, une affirmation qui est peut-être péremptoire, mais qui montre qu'on y pense, et que finalement on cherche un peu à se définir, et il y a quelque chose de l'intérieur qui est de l'ordre d'une recherche. Mais bon, maintenant notre sujet c'est plutôt comment devenir chrétien. Alors on va peut-être pas
oui, parce que,
s'appesantir là-dessus.
Juste une petite parenthèse, parce qu'il faut évidemment passer comment le devenir, hein, chrétien. Vous pensez qu'il peut y avoir des personnes qui refusent carrément de chercher Dieu, ou vous pensez qu'au contraire, tout le monde a besoin de chercher Dieu? Moi, il me semble qu'il y a des gens qui sont libérés de cette pensée, de cette recherche. Et on les voit vivre et on les voit mourir sans que ça les ait beaucoup inquiétés.
Alors, il y a un passage de la Bible dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, qui est assez explicite à cet égard. Je le lis, hein, Actes 17, verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, on lit au verset 26, il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes. » On voit déjà quelque chose qui milite contre le racisme et les distinctions. Pour habiter sur toute la face de la terre, et on continue en lisant, pour qu'il le cherche. Et non seulement cela, mais je lis au verset 27, s'il pourrait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et donc voilà, à mon sens, quelque chose d'assez universel. Dieu a créé les hommes pour qu'ils le cherchent. Il me semble qu'on s'approprie beaucoup mieux quelque chose quand on le cherche que quand on nous le donne tout cuit. Et on s'approprie mieux...
Ça a toujours plus de valeur.
Voilà, un livre, un instrument de musique, un appareil quel qu'il soit, ou une maison quand on en a fait les plans, ou quand on a conçu quelque chose, plutôt que quand on nous le donne. Voilà. Et je crois qu'avec Dieu, c'est un peu pareil. Dieu nous appelle à le chercher, à le comprendre, à le trouver, et dans tous les différents domaines de notre être.
Oui, je vous suis parfaitement, mais je voudrais quand même soulever un problème. Dieu donc doit agir à peu près de la même façon avec tous les hommes, mais il laisse quand même la liberté à chacun d'entendre, d'écouter et de prendre une décision.
C'est ça, absolument. Dieu laisse la liberté à chacun d'entendre et puis de décider, mais quand même... Il a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Donc Dieu laisse la liberté à l'homme, mais l'homme a-t-il le choix? C'est-à-dire que si l'homme ne fait pas ce choix-là, alors il est forcément malheureux. C'est un peu comme si on disait, j'ai la liberté de mettre de l'essence dans mon réservoir de ma voiture. Bien sûr, on peut très bien ne pas en mettre, mais à ce moment-là, la voiture, elle reste au garage. On se met au volant et puis on fait semblant de conduire, mais on ne peut pas la conduire. Et donc je crois que cette nécessité de chercher Dieu est absolument universelle et chacun devrait consacrer un temps certain chaque jour pour méditer, pour se placer devant Dieu et quand il le fait, certainement il le trouve.
Oui, c'est joli ce que vous venez de dire. Mais vous savez très bien quand même qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui restent dans leur voiture immobile sur le parking. N'oubliez pas que tous les gens de votre entourage connaissent Dieu, chantent la louange de Dieu, espèrent en Dieu.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu comme le Dieu absolu, comme le Dieu tout-puissant, comme le Dieu qui est le dernier recours, comme le Père avec la longue barbe qui est finalement le dernier recours, et finalement comme ce Dieu qui sauve. Et dans un sens, on pourrait dire qu'il passe par la petite porte du salut. Hein, ils le connaissent, ils le reçoivent consciemment ou inconsciemment. Mais ils ne rentrent pas dans cette recherche qui aboutit à une vraie connaissance de Dieu. C'est un peu dommage. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour Dieu aussi de ne pas être connu des hommes. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Dieu, mettons, avec le degré de connaissance minimum.
Et qui est adapté à eux, peut-être, alors, non? Vous connaissez l'expression « la foi du charbonnier », mais est-ce que Dieu se contente d'une foi du charbonnier?
Je pense que la foi du charbonnier n'est pas une foi qui est adaptée à quelqu'un. je pense que c'est la foi par défaut. C'est la foi, finalement, de quelqu'un qui peut être paresseux, négligent, tellement occupé à d'autres choses qu'il ne va pas s'occuper de Dieu, mais quelque part, il s'en sera suffisamment occupé pour l'accepter, pour l'accueillir de manière minimale dans la vie.
Alors la personne qui a frappé à votre porte, vous l'avez reçue, vous l'avez accueillie, comme vous savez accueillir les gens qui frappent à votre porte. Vous lui avez un peu montré ce que c'était que chrétien, mais je crois que c'est insuffisant. Si vous lui donnez une définition de dictionnaire, ça ne va pas, ça ne va pas l'intéresser particulièrement. Il veut aller certainement plus loin. Donc je crois que là, il va y avoir peut-être un apprentissage. Il a fait la démarche, donc il faut y répondre. Et un apprentissage qui va l'amener à devenir chrétien. Ce néophyte, celui qui démarre là, effectivement, qui n'est certainement pas baptisé, il va falloir évidemment donc lui parler et lui signaler que connaître Dieu, c'est suivre Jésus et que obligatoirement, ça doit transformer sa vie. Ça doit changer sa vie et il faut qu'il se convertisse. Pas obligatoirement dans le sens de dire je n'étais pas dans cette religion, j'étais dans celle-ci, mais maintenant je suis chrétien ou je rentre dans une autre confession. Mais sa façon de vivre, sa façon de voir, sa façon de poser ses actes.
C'est vrai, là, vous avez utilisé le mot conversion, convertir, et la conversion en ski, c'est le fait de passer d'une direction à l'autre direction qui est opposée. Et pour ça, on tourne un ski puis l'autre à 180 degrés. La conversion, c'est donc un changement qui n'est pas, comme vous l'avez dit, un changement de manière de se comporter, un changement de rite, un changement de, mettons, de lieu d'église, mais c'est un changement intérieur et j'aimerais un peu prendre du temps pour parler de ce changement.
Oui.
Il me semble que, de manière générale, on peut dire que ce changement se fait en deux temps. Le premier, c'est je change parce que, en fait, ce que je suis en train de vivre ne me convient pas. Je change parce que je voudrais autre chose, je n'aime pas ce que je suis en train de faire, je n'aime pas ce que j'ai fait, je n'aime pas ce que je suis devenu, je n'aime pas là où j'habite, je n'aime pas comment j'habite. Et donc, il me semble que cette première porte de la conversion qui mène à Dieu, on pourrait dire que c'est la porte du changement d'opinion, mais qui commence par une dépréciation de ce que je fais. Je pourrais appeler ça, par exemple, la repentance. Hein, je considère que ce que je fais, ça ne me convient pas.
Oui.
Alors que la deuxième porte, c'est plutôt l'adhésion à ce que Dieu dit. C'est-à-dire que une fois que j'ai vu que ce que je pensais ne me convient pas, alors je vais adhérer à ce que Dieu pense.
Alors, vous prenez l'exemple des portes. Si vous franchissez une porte, c'est que vous laissez dans l'autre pièce quelque chose qui ne vous convenait pas.
C'est ça.
Voilà. Donc, franchissez un seuil.
Voilà.
Vous êtes dans une deuxième pièce.
voilà
Et là, c'est là où nous sommes. Il faut avertir ces personnes qui rentrent dans la deuxième pièce de ce qu'il attend et ce qu'il doit faire. Puis
voilà
après, il y aura une autre porte, mais ça, c'est une autre histoire.
Et là, je dirais que quand on franchit ces deux portes, alors on est converti. On est passé d'une situation sans Dieu à une situation avec Dieu. Alors je voudrais un peu préciser ces choses. Il y a des personnes qui ont franchi la première porte, la porte de la repentance, mais qui ne franchissent pas la deuxième. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que ces personnes-là vont avoir honte de leur vie, craindraient énormément si on passait sur le mur le film de leur vie, sont absolument certaines que il faudrait surtout pas que ce qui est dans leur vie leur soit retenu contre eux parce que sinon ça se passera mal. Et donc, ce sont des personnes qui se repentent, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'elles ont fait et qui voudraient vraiment être ailleurs. Mais elles ne savent pas où aller. Elles n'ont pas peut-être prêté l'oreille à qui est Dieu, à ce qu'il a fait. Et de ce fait, elles ne peuvent pas être d'accord avec Dieu, elles ne peuvent pas adhérer à ce qu'il dit, elles ne peuvent pas recevoir, par exemple, Jésus-Christ comme sauveur. Hein, Jésus-Christ qui est mort il y a environ 2000 ans sur une croix pour nos fautes. Et Jésus qui dit au brigand, « Eh bien, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi ? Parce que tu as discerné en moi celui qui t'a sauvé. » Et donc, ces personnes-là ne mettent pas foi dans les promesses de Dieu. Et de ce fait, elles ont franchi la première porte. Elles ont mis, dans un sens, elles sont d'accord avec Dieu pour juger que sans Dieu, on n'arrive à rien. Mais elles n'ont pas mis foi dans les promesses de Dieu. À l'inverse, il y a des gens qui sont très positifs, très optimistes, et qui vont largement mettre foi dans les promesses de Dieu, mais qui ne vont pas passer la première porte, parce que finalement, ils sont assez contents d'eux-mêmes. Alors, ces gens-là, s'ils ne se contredisent pas, s'ils ne n'infirment pas ce qu'ils ont toujours pensé, s'ils ne prennent pas comme scandaleux le fait de vivre sans Dieu, alors comment peuvent-ils apprécier le fait de vivre avec Dieu ? C'est pour ça que je dis que pour franchir la conversion, il faut franchir ces deux portes, la porte de la repentance et la porte de la foi. Je juge finalement tout ce que j'aurais mal fait, mais je reçois tout ce que Dieu me permet de bien faire. Et avant d'être converti, j'étais finalement sans Dieu et sans son amour, sans sa puissance, sans sa consolation, sans l'éclairage de Dieu. Et j'étais quelque part sous la colère de Dieu, puisqu'en fait Dieu m'appelle à vivre avec lui, tout ce que je fais sans lui, c'est pas bien. Alors si je me rends compte de tout ça et que je donne foi à ce que dit Dieu, savoir que celui qui croit que Dieu sauve, alors il reçoit le salut, il est sauvé. Alors je crois que sans avoir le salut je ne suis pas sauvé, c'est la première porte, et je passe la deuxième porte en recevant tout ce que Dieu me donne, dont le salut, et de ce fait je deviens converti, je deviens sauvé, et c'est quelque chose de personnel, quelque chose d'intérieur, quelque chose que personne ne peut juger, personne ne peut me dire « toi, tu es sauvé et un tel n'est pas sauvé ». Non, moi je peux savoir si de la part de Dieu j'ai reçu le salut ou je ne l'ai pas reçu.
C'est une relation tout à fait personnelle, bien entendu, où personne ne peut y voir à votre place le degré de foi ou d'adhérence à la foi. Mais cette première porte passée, celle de la repentance, moi, elle me paraît essentielle d'avoir franchi ce pas, hein, de se rendre compte de tout ce qui n'allait pas. Mais ensuite, dans cette deuxième pièce, il faut accepter ce que l'on vous propose. Donc, l'amour de Dieu, son sacrifice, la justification. Mais là aussi, alors c'est peut-être que la personne, bien sûr, est là pour écouter, pour entendre. Il faut qu'elle suive, mais c'est peut-être la responsabilité aussi du chrétien qui, ou de l'Église qui doit accueillir cette personne en recherche.
C'est vrai que pour passer la deuxième porte, il faut forcément adhérer à quelque chose. Et on ne peut pas adhérer à quelque chose qu'on n'a pas entendu.
Voilà.
Hein, c'est ce que vous soulignez. Et de ce fait, l'Église, les chrétiens sont responsables de faire connaître la parole de Dieu, de faire connaître l'œuvre de Dieu de manière simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des enregistrements. Et sont responsable aussi d'expliquer toutes ces choses, de prendre le temps et de le faire cas par cas. C'est vrai que souvent, les gens n'adhèrent pas à tout ce que Dieu donne parce qu'ils n'ont pas tellement les moyens de l'entendre de manière suffisamment simple pour eux.
Oui, au bon moment, certainement, ouais, aussi. Alors donc, on arrive là à cette deuxième porte, et il faut quand même peut-être que la personne qui est sur ce chemin doit savoir comment le devenir, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire. En gros, pour simplifier, pour nous qui sommes chrétiens, ça sera peut-être plus clair à comprendre, et à l'autre, il faudra lui expliquer ou lui montrer même pas des actes, hein, et des prises de position. C'est comment suivre Jésus, donc être chrétien.
Je pense à deux...
Je ne parle pas des rites, on verra tout à l'heure.
Oui, je pense à deux expressions qu'on trouve dans le Nouveau Testament. La première, elle est dans la bouche de l'apôtre Pierre. C'est après la Pentecôte, c'est au commencement de l'histoire de l'Église, et Pierre fait sa première prédication, son premier discours en public. Il est à Jérusalem et ils sont sur la place publique. Et alors lui, il va parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et il va vraiment interpeller tous ceux qui l'entendent. Et alors, il les interpelle notamment en disant, acte 2, verset 23, « Lui, vous l'avez cloué à une croix. Hein, » Donc, c'est quand même assez terrible pour ces gens d'entendre qu'effectivement, ils ont participé à quelque chose de redoutable.
Une accusation.
Et donc, au verset 37, je lis, « Et ayant entendu ces choses, ceux qui entendaient eurent le cœur saisi. » Donc, ce sont des personnes qui se disent, « Ben oui, c'est vrai, ils se repentent. Mm. » Et donc, et ils disent, « Et alors, qu'est-ce que nous avons à faire ?»
Voilà.
Et alors là, on écoute la parole de Pierre. Il leur dit, « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés. » Donc voilà une première chose qu'il leur est proposée, c'est le baptême. Et il dit, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc il y a une deuxième chose qui est donnée à la suite de cette repentance qu'ils ont manifestée, c'est le don du Saint-Esprit. Et je suppose qu'il faut qu'ils soient enseignés dans ce sens, qu'ils entendent des choses.
Moi, j'avais l'impression, c'est après la Pentecôte, hein, dont l'esprit était là, j'allais dire traîné par là, mais il me semble que les personnes qui ont écouté Pierre, qui ont dit « Mais que devons-nous faire ?» J'ai l'impression que c'est déjà l'esprit qui les poussait à poser cette question.
Et je pense que Pierre, justement, dit « Vous recevrez le don du Saint-Esprit » pour leur signifier qu'ils ont reçu quelque chose, mais qu'ils ont besoin de savoir, de connaître, dont ils ont besoin de prendre conscience. Et donc, on entend d'autres choses, mais qui figurent plus parmi les rites dont vous voulez peut-être parler après, et qu'on abordera après la pause. Donc Pierre fait l'apôtre Pierre leur dit que chacun de vous soit baptisé, voilà donc une première chose, et ensuite il parle du don du Saint-Esprit. Alors cette première chose, c'est le baptême chrétien. Je vais en dire deux mots, peut-être sans être trop explicite, puisque il y a déjà un enregistrement sur le baptême. Et voilà, le baptême, c'est ce que quelqu'un fait quand il réalise ce que Dieu a fait pour lui. Il se fait plonger dans l'eau, il ressort de l'eau. 1 Pierre 3, 22 nous dit que le baptême est la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, 22. On voit dans cette démarche que quelqu'un finalement réalise qu'il a besoin d'une bonne conscience. Et il fait cette demande à Dieu en obéissant au commandement de Jésus, hein, qu'on trouve en Matthieu 28, 20, où il y a ce baptême chrétien qui est présenté, et ce commandement de Jésus qui nous demande d'être immergé, d'être sous l'eau, et l'immersion correspondant à la mort de celui qui était condamné par Dieu, et ensuite l'émersion, quand on sort de l'eau, qui correspond à la vie de celui qui est vivifié par Dieu. Et qui est cette nouvelle créature. Et finalement, le baptême, c'est cet acte symbolique qui représente une réalité profonde, intérieure, spirituelle, de l'acceptation de l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ en nous.
Oui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon image, mais en fait, ce baptême, ça correspond à la repentance, à la première porte. Donc, ça vous fait faire le ménage. Et puis, une fois que vous êtes tout propre, vous pouvez recevoir le don de l'Esprit, vous pouvez Dieu.
Alors, la première porte, c'est l'immersion.
Voilà, oui.
Et la deuxième porte, c'est l'émersion. Et le baptême, c'est un acte qui représente l'action que Dieu a faite pour nous sauver. Le don de l'Esprit, je dirais que c'est la relation avec Dieu qui en découle. Dès l'instant où on est sauvé, on devient en relation profonde avec Dieu, mais une relation qui commence, une relation qui va être nourrie par la connaissance de Dieu, qui va aller en progressant, en augmentant au fur et à mesure. Donc le don de l'Esprit, c'est un don initial qui se fait à la foi, quand on a la foi, quand on rentre dans la foi, et c'est quelque chose qui relève de la relation. Hein, j'ai cette connaissance qui m'est possible, j'ai cette relation qui est complètement ouverte, j'ai cet accès à Dieu qui est absolument possible à tout moment.
Alors moi, je ne voudrais pas décourager la personne qui a frappé à votre porte, mais s'il tombe sur le passage de Luc 9, 3, entre autres, qui dit « Ne prenez rien pour le chemin ». Donc déjà, il y a un abandon de certaines choses. Hein. Ensuite, Luc continue, chapitre 9, 57-61, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Mais Luc est ensuite soutenu par Matthieu, 8-19, hein, « Laissez les morts ensevelir les morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu ». Et Matthieu encore, qui dit, en 8-19-27, non, c'était ce que je viens de dire, Marc, en 8-34, « Qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive ». Alors aujourd'hui, dans un monde qui perd en général sa valeur, c'est un monde de violence, de repli sur soi, de recherche de pouvoir et de réussite matérielle, ce genre d'invitation de Luc, Marc et Matthieu risque de laisser un peu perplexe notre visiteur. Il faut que je fasse tout ça, que je me détache des biens de ce monde, que je laisse les choses telles qu'elles sont et que j'aille annoncer à mon tour effectivement la bonne parole. Ça va me faire faire des efforts. Ça peut, disons, un peu l'inquiéter.
Je crois que, fort heureusement, la Bible est un livre complet et les paroles de Jésus sont éclairées, expliquées par les paroles de l'apôtre Pierre. Quand Jésus a dit tout cela à ses disciples, qu'est-ce que Pierre en a retenu ? Qu'il fallait être baptisé et marcher par l'Esprit. Ça montre bien qu'il faut entendre les paroles de Jésus d'une manière peut-être particulière ou qu'il faut les expliquer. Alors en voici quelques explications. La grande différence entre les paroles de Jésus et les paroles de Pierre, c'est que quand Jésus parle, il n'est pas encore mort. Son œuvre de salut n'est pas encore faite. Donc, il parle à des personnes qui sont là pourquoi ? Eh bien, qu'ils sont là pour éventuellement accueillir le roi. Jésus est venu pour être roi sur Israël, et Dieu savait, Dieu l'avait annoncé par les prophètes, que Israël ne recevrait pas son roi. Mais finalement, Jésus dit à tous ceux qui veulent le suivre, implicitement, vous savez, ceux qui devraient m'accueillir comme roi ne vont pas m'accueillir. Et donc, si vous voulez me suivre, ça va être difficile parce que vous allez être persécutés, parce que je ne serai pas accueilli comme roi, et vous qui êtes mes disciples, vous allez être aussi rejetés et peut-être mis à mort, etc. Mais ces choses-là ne sont pas données par Jésus pour être sauvés, ce sont des choses qui sont annoncées en rapport avec le fait qu'il est rejeté comme roi. Donc les paroles de Jésus et de Pierre ne se contredisent pas, mais elles se complètent. Simplement, et je dirais qu'il faut retenir les paroles de Jésus comme étant celles qui étaient adressées à des personnes qui devaient le recevoir comme roi, mais les paroles de Pierre à des personnes qui devaient recevoir Jésus comme sauveur, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
C'était un autre
moment.
Un autre niveau. Un autre moment et un autre niveau, bien sûr. Oui. Alors ensuite, cette personne va être amenée, disons, à suivre peut-être des rites. Alors, on dirait aujourd'hui une formation, un catéchisme, un accompagnement pastoral, puis le baptême, et puis l'esprit. Donc, c'est, disons, une espèce de question administrative qui se pose à ce niveau-là pour devenir chrétien.
Alors, si on reprend le discours de Pierre, de l'apôtre Pierre, en acte 2, on voit effectivement ces rites, ces choses qui sont faites. Et on voit que au verset 41, il y a, nous lisons, ceux qui reçurent sa parole, et donc qui reçurent le Jésus-Christ comme sauveur, furent baptisés, et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 personnes. Et donc il y a Et on lit au verset 47, le Seigneur Jésus ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui devaient être sauvés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se tournent en recevant Jésus comme sauveur, ayant fait justice pour leurs propres fautes et donnant l'assurance de la vie éternelle. Et au verset 42, on voit qu'ils ont quelque chose de précis à faire. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Voilà quatre choses qui nous sont données et qui correspondent un peu à ces rites dont vous nous parlez. Alors la première chose, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, c'est l'enseignement des apôtres. Il faut savoir que à ce moment-là, on est en 28 après Jésus-Christ, puisque le Christ est né vers 4 ou 5 avant l'ère chrétienne. Hein, il est mort vers 33 ans. Donc il est mort vers 33 ans, donc il est mort environ vers 28 après Jésus-Christ. Et ces gens qui reçoivent le salut sont des gens qui persévèrent dans la doctrine des apôtres. Il n'y a pas de lettres encore qui sont écrites. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Nouveau Testament qui soit constitué. Il n'y a pas de catéchisme. Et donc ce sont les apôtres qui ont défini pendant quelques années, le temps que, par exemple, l'ensemble du corpus des lettres de Paul soit constitué. Il finira ce corpus vers les années 65-66.
Le chrétien d'aujourd'hui?
Alors, le chrétien d'aujourd'hui a l'ensemble de ses lettres.
Voilà, donc il va puiser dans ce trésor.
Voilà, mais on peut dire que dans ce catéchisme de quatre choses, avec ses rites, il y a quelque chose à creuser. La première chose, c'est l'enseignement des apôtres, qui nous est finalement donné par le corpus des lettres qu'on appelle les épîtres. Mmh. Il y en a 21 dans le Nouveau Testament. Deuxième chose, la communion des apôtres. Et on pourrait dire que la communion des apôtres de l'époque, c'est aussi le fait de cultiver la relation avec ceux qui sont des pères, avec ceux qui nous conduisent, qui nous guident, qui ont compris les choses, qui ont reçu la parole de Dieu, qui la connaissent, qui sont capables de l'expliquer. Donc voilà la communion des apôtres. Troisième chose, la fraction du pain. La fraction du pain, l'Eucharistie, c'est ce souvenir de la mort du Seigneur Jésus et ce geste très significatif, très important de prendre le pain et le vin, l'Eucharistie et la coupe.
D'être ensemble et partagé.
Ensemble et partagé, et que Jésus a institué la nuit pendant laquelle il a été livré, juste avant d'être livré pour mourir, à l'occasion d'un repas. Donc voilà un troisième rite. Et la quatrième chose, c'est les prières. Et on pourrait dire que ces quatre choses, l'enseignement, la communion, la pratique eucharistique, donc la fraction du pain ou la Sainte Cène, et puis les prières, quatrième chose, sont un peu les quatre piliers rituels de la vie de l'Église. Alors bien sûr, dans les épîtres, ces piliers sont largement creusés, il y a beaucoup de nuances qui sont apportées. On voit, par exemple, dans le livre des Actes, il y a des rencontres de prières de l'Église, au chapitre 12 notamment, mais on voit aussi qu'il y a des chants. Oui. Et les chants ne sont pas notés ici dans ce petit catéchisme. Voilà, il faut prendre cela comme quelque chose d'extrêmement simple et peut-être de s'en servir comme base pour la réflexion.
Oui, et donc par la suite, effectivement, on suppose que ce schéma est accepté évidemment par la personne qui a frappé tout à l'heure, hein, et puis il va être appelé à formuler peut-être sa voix, sa foi. Ce sera son rôle aussi.
Alors formuler sa foi, c'est quelque chose de très important.
C'est-à-dire que personne, excusez-moi de vous arrêter, je ne peux pas penser qu'on peut devenir chrétien pour soi. Ça y est, je suis chrétien, d'ailleurs, ce n'est pas possible, les quatre points que vous venez de donner, il y a la communion des apôtres, il y a l'Eucharistie que je suis obligé de partager, mais même malgré ça, il ne faudrait pas que je respecte ces quatre points-là que vous venez de citer, et puis qu'après, je me retire chez moi, tranquille. Pour moi, formuler sa foi, c'est lui donner la vie.
Oui, formuler sa foi, c'est exprimer ce que j'ai compris et de ce fait me l'approprier de manière tout à fait personnelle. Quand je formule quelque chose, je le dis avec mes propres mots, et plus je le dis avec mes propres mots, plus ça devient quelque chose qui m'appartient. Et en plus de ça, en général, quand je formule ma foi, comme vous le suggérez fortement, je le formule à quelqu'un, et donc je témoigne, je transmets, je donne connaissance de ce que j'ai compris, et c'est là où ma foi, finalement, trouve toute sa complétude et toute sa raison d'être, quelque part.
Donc, nous avons vu qu'il fallait, lorsqu'on est devenu chrétien, c'est un déroulement, ça doit se passer. On ne peut pas prévoir, évidemment, combien de temps ça va durer. Ça va dépendre de chacun et de la relation d'intimité avec Dieu, je suppose aussi, bien entendu, et de l'impact et de l'accueil que l'on fait peut-être à tout ce que Dieu veut nous faire savoir. Mais on est arrêté sur la question de formuler sa foi. Pour être chrétien, on est devenu chrétien, nous avons le devoir et l'obligation de formuler sa foi, de savoir et faire savoir qu'on est chrétien. Non pas obligatoirement se mettre dans la rue, se mettre à prêcher, mais uniquement de le vivre carrément et en posant des actes, de montrer qu'on est chrétien. Alors, il se peut qu'au cours de ce déroulement, quand même, la personne ait un doute. Est-ce que je ne me trompe pas? Alors, est-ce que le doute en lui-même est quelque chose de mauvais?
Le doute, je le place au niveau de la recherche. Mmh. Alors, c'est sûr que le doute, quand il est considéré comme un obstacle, comme un trouble, il n'est pas agréable. Mais quand il est considéré comme de la recherche, alors il est tout à fait normal.
C'est-à-dire que le doute doit obligatoirement permettre de déclencher une recherche.
C'est ça.
Parce que si ça reste doute, là, ça ne va pas. Enfin, moi, dans mon esprit, c'était ça.
C'est ça.
J'ai un doute. Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que j'ai bien compris? Qu'est-ce que je dois faire? C'est que ça m'ouvre une autre porte, disons, pour chercher et trouver.
Voilà, à ce titre, je peux dire que personnellement, je n'ai pas d'autres convictions que celle d'être un enfant de Dieu. Cela étant clair en moi, parce que je sais que j'ai recherché Dieu et que Dieu est ce Dieu qui sauve et qui répond et qui, de fait de ma recherche, m'a répondu. Alors, la Bible dit aussi en Romains au chapitre 8 et au verset 16 ou 18 que l'Esprit de Dieu dit avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le verset 16. Hein. Et donc, je crois que cette conviction que j'ai d'être enfant de Dieu, Romains 8, verset 16, elle est absolue en moi et elle, c'est un des langages de Dieu qui me porte dans cette réalité d'être son enfant. Alors après, témoigner de sa foi, c'est quelque chose dans lequel je suis rentré parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte d'abord que j'avais besoin de connaître Dieu pour répondre à différentes circonstances dans ma vie. J'avais besoin de connaître Dieu en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que membre de l'Église, en tant que opticien, en tant que personne dans mon voisinage. Et donc, ma lecture de la Bible s'est faite dans cette perspective-là, et c'est là où ma foi a été nourrie des paroles de Dieu. Et ces paroles de Dieu, c'est l'ensemble de ce que Dieu dit dans la Bible, autant par les exemples des personnes que par les exposés qui sont faits sur l'Église, sur la fin des temps, sur la vie chrétienne, sur ce que c'est que l'Esprit, sur ce que c'est que marcher par l'Esprit, etc. Ensuite, témoigner de ma foi, c'est aussi être prêt à le dire à quelqu'un. Quand quelqu'un me dit « mais moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un chrétien », si moi, je ne sais pas lui dire ce que c'est qu'un chrétien, c'est peut-être que personnellement, je ne suis pas un si bon chrétien que ça. Je ne suis pas un chrétien qui suis en train de tirer profit de toutes les richesses que Dieu m'a données. Dans la mesure où je comptabilise bien ces richesses, alors de manière tout à fait claire, ben je sais les transmettre. C'est pour ça que formuler ma foi, c'est avoir conscience et connaissance de l'ensemble des choses que Dieu me donne. C'est, dans un premier temps, c'est-à-dire avoir pris conscience de tout ça, l'avoir entendu, l'avoir reçu, me l'être approprié. Mais deuxièmement, c'est me l'approprier par une existence dans laquelle j'expérimente ce que je fais. Et alors, parce que j'expérimente ce que je sais, alors je peux en parler à quelqu'un. Parce que finalement, parler à quelqu'un de ce que je n'expérimente pas, c'est presque du mensonge.
Oui, effectivement, il n'y a pas lieu d'être. Oui.
Voilà. Mais ne pas parler à quelqu'un de ce que j'expérimente, c'est quelque chose d'un peu anormal, dans la mesure, surtout dans la mesure où il me le demande.
Oui, alors, on avait parlé du doute, et on a vu qu'en fait, le doute est une invitation à chercher, hein, pour se rassurer, pour trouver la solution, en fait, aussi. Et le doute peut aussi, évidemment, arriver lorsque le chrétien, alors qu'il soit nouveau, qu'il ne soit pas nouveau, je pense que c'est tout le long de sa vie, peut-être jusqu'au même au dernier moment, c'est des questions que l'on peut se poser, ce qui prouve justement alors donc que c'est quelque chose de vivant, hein, et pas de figé, c'est de, est-ce que je connais bien la volonté de Dieu? Ce que je vais faire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me l'inspire ou pas? Et ça, je pense que pour certaines personnes, c'est la grosse difficulté, un obstacle qui se met devant eux et qui va soit les paralyser, soit, encore paralysés, ils peuvent s'en sortir, soit abandonner, et ce serait vraiment dommage, soit au contraire, passer, disons, et comprendre plus facilement ce que c'est que connaître la volonté de Dieu.
Je reprends et je reformule ce que vous venez de dire. Quelqu'un se reconnaît avec simplicité que non seulement ce qu'il fait n'est pas bien, mais que dans ce qu'il pense, il n'y voit pas beaucoup de lumière divine et de signes de la volonté de Dieu. Et il se dit, finalement, avec tout ça, je ne dois pas être chrétien. Alors, je crois qu'il y a certains passages bibliques qui sont là de nature à nous construire, à nous édifier, à nous fortifier. Je pense par exemple à Romains 12, versets 1 et 2, et à Colossiens 1, verset 9, qui parle du discernement de la volonté de Dieu. Alors je ne vais pas le creuser parce qu'on en parle dans un autre enregistrement, hein, pendant une heure, mais je vais simplement dire qu'il est normal en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a été scellée de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui appartient à Dieu et qui appartient définitivement à Dieu, de discerner la volonté de Dieu. Pour la discerner, eh bien, il n'y a rien de plus simple que dans la mesure où on ouvre les fenêtres de notre cœur à Dieu, alors la lumière de Dieu rentre, et cette lumière étant là de la part de Dieu pour nous éclairer, alors elle nous fait comprendre ce que nous avons à comprendre. Mais peut-être que la plus grande difficulté du chrétien, de l'enfant de Dieu, qui penserait éventuellement qu'il ne discerne pas la volonté de Dieu, c'est justement de penser qu'il ne la discerne pas. Mmh. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, on est dans une pièce, la lumière rentre, je vois qu'il y a une imprimante, je vois qu'il y a un téléphone, qu'il y a un ordinateur, que vous êtes en face de moi, mais je fais comme si je ne le voyais pas. Parce que je me dis, non, c'est pas possible de le discerner. Je crois que la réalité de Dieu en nous et de l'Esprit Saint qui nous conduit est à la hauteur de la réalité de ce que nous voyons. C'est-à-dire que dans la mesure où on est véritablement dans cette ouverture à Dieu et dans cette transparence, alors Dieu nous dit ce que nous avons à entendre. Voilà pour le discernement de la volonté de Dieu. Mmh. Et le blocage maximal, c'est de penser que ce n'est pas comme ça que ça marche.
Oui, je vais faire peut-être un mauvais jeu d'esprit. Il ne suffit pas de dire « je crois », mais il faudrait me dire « je vois ».
C'est ça. Ouais. Exactement. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose qui me paraît important, c'est qu'il y a des versets dans la Bible qui peuvent donner à penser que la qualité d'enfant de Dieu se perd. Et voilà, on va en prendre par exemple, dans la lettre de Paul aux Colossiens, avec une formulation qui fait un peu peur. Je vais la lire.
Oui.
Hein, on va voir
oui,
ça.
C'est important.
Donc, au chapitre 1er et au verset, à partir du verset 21 jusqu'au verset, à la fin du verset 22, nous lisons que ces Colossiens qui étaient autrefois étrangers et ennemis dans leur compréhension et dans leurs mauvaises œuvres, eh bien, ils ont été réconciliés dans le corps de la chair de Dieu par la mort. hein, dans le corps de la chair de Jésus-Christ, hein, par la mort, pour être présenté saint et sans tache et irrépréhensible devant Dieu, si de moins il demeure dans la foi. Et donc là, quand on lit ça un peu rapidement, on se dit, oulala, alors finalement, si je ne demeure pas dans la foi, alors je ne suis pas saint.
Mais oui.
Voilà. Je ne suis pas sans tache, je peux devenir impur, etc. Et je peux devenir finalement répréhensible. Alors, je voudrais relire ce verset lentement pour qu'on comprenne bien. Donc, mettons-nous à la place des Colossiens. Nous étions autrefois, verset 21 de Colossiens 1, étrangers et ennemis de Dieu, dans notre compréhension et dans nos œuvres. Mais Dieu nous a maintenant réconciliés par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes donc réconciliés. Nous sommes donc sauvés, nés de nouveau. Nous sommes passés par ces deux portes de la nouvelle naissance, par la repentance et par la foi. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons une relation avec Dieu et nous sommes scellés, nous lui appartenons.
Et c'est définitif.
Et c'est un verbe au passé. Hein, nous avons été...
Oui.
Hein, nous, il nous a réconciliés avec lui. Et pour nous présenter saints, c'est-à-dire pour nous présenter, qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est la capacité d'entrer dans sa présence. Oui. Pour nous présenter sans tache, mais nous pouvons être sans tache dans la mesure où nous nous lavons dans la parole de Dieu, dans l'eau de la parole de Dieu. Et nous pouvons être irrépréhensibles, sans interpellation, dans la mesure où ce que Dieu nous reproche, eh bien nous le confessons. Alors voilà comment un passage peut être compris comme étant pour la perte du salut, alors qu'il n'en est rien. Dieu nous a réconciliés, mais il nous exhorte à demeurer dans la foi, ce qui nous permet d'être dans cette sainteté, c'est-à-dire de bénéficier de cette relation si heureuse, si importante, si essentielle avec lui, et de ce fait de trouver comment nous laver de nos impuretés et comment être dans cette irréprochabilité avec lui.
Donc, effectivement, peut-être que je me répète, mais devenir chrétien, ce n'est pas de faire un geste ou prendre une position qui s'arrête là, à un point donné. Ça, c'est un combat, je dirais, de tous les jours. Lire la parole de Dieu, la vivre, y revenir si on ne comprend pas, se servir de ses doutes pour approfondir. Hein, par exemple, si on savait douter, si on était justifié ou pas, on va avec, disons, Paul et Colossiens pour trouver, disons, là, la possibilité de repartir.
Alors, ce qui est le combat de tous les jours, je pense, pour être vraiment précis, ce n'est pas de devenir chrétien, mais c'est de rester dans cette position privilégiée. Peut-être une image qui va être parlante pour conclure, c'est que devenir chrétien, c'est avoir la clé de l'accès à la présence de Dieu. Une fois que Dieu m'a donné la clé, qu'il me l'a même gravée sur moi, ce qui fait que quand je me présente, la porte s'ouvre toute seule. Je suis devenu chrétien.
Mais il ne faut pas rester sur le seuil, il faut rentrer dans la pièce.
J'ai la clé.
Oui, c'est oui, que vous avez ouvert.
Voilà. Donc devenir chrétien, c'est avoir la clé.
Mmh.
Mais je peux très bien, moi, être chrétien, être devenu chrétien et ne pas me servir de la clé. De ce fait possible, que je suis chrétien, mais je ne bénéficie pas des privilèges de ma position devant Dieu. Non. Et ça,
plusieurs possibilités. Vous êtes devenu chrétien, vous avez la clé, mais vous restez devant la porte fermée.
Oui.
Deuxième possibilité, vous êtes devenu chrétien, vous avez la clé, mais vous la mettez dans la serrure, bon, je sais, vous ouvrez quand même, mais vous n'avancez pas.
Voilà.
Alors qu'il faut ouvrir la porte et entrer.
Voilà. Et troisième possibilité, j'entre et je suis en communion avec Dieu. Dans ces trois cas, je suis devenu chrétien.
Oui, oui.
Ce n'est pas parce que j'entre pas dans la présence de Dieu que ce privilège-là m'est enlevé. Non, quand je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien. Mais bien sûr, une fois que je suis devenu chrétien, alors il s'agit de tirer profit de cette relation privilégiée. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi important qu'on en parle.